conférences et débats.
Terrorisme, renseignement, médias, c'est le thème qui va nous occuper pendant une heure et quart environ. Et j'ai le plaisir de vous présenter plus en détail les invités. Je vais commencer avec vous, Jacques Beau. Vous êtes colonel EMG, c'est-à-dire colonel d'état-major, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse. Vous êtes engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits, spécialiste du renseignement et de la question du terrorisme. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence, dont l'Encyclopédie du renseignement et des services secrets, l'Encyclopédie des terrorismes et des violences politiques, et Djihad, l'asymétrie entre fanatisme et incompréhension. Alors cette affaire d'asymétrie, elle est très importante également dans votre nouvel ouvrage, Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Cette notion d'asymétrie, il faut que vous nous l'expliquiez pour qu'on parte tous sur la même base et qu'on soit sûr de bien comprendre le débat qui suit. C'est quoi cette asymétrie ?
Alors, cette asymétrie, elle est d'abord, il a fallu la conceptualiser. J'ai basé ma réflexion sur des observations que j'ai faites finalement dans le terrain. Ce sont des situations où l'action que l'on mène conduit irrémédiablement à l'opposé de l'objectif recherché. Et ça paraît un peu absurde, et c'est quelquefois absurde. Je vous donne un exemple concret. Lorsque les Israéliens capturent, parce qu'ils ont réactivé cette stratégie, capturent un terroriste, ils détruisent la maison de sa famille. Maintenant, il faut savoir que dans la bande de Gaza, le Hamas n'est pas simplement une organisation terroriste, comme on veut bien le croire. C'est une organisation assez complexe qui comprend notamment une organisation d'entraide sociale. Et c'est en fait le Hamas a son propre système de sécurité sociale qui fait des écoles, qui subvient aux besoins des orphelins, etc., etc. Et parmi ces activités, le Hamas reconstruit les maisons. Du coup, chaque fois que les Israéliens détruisent une maison, même si la famille était peut-être opposée à l'action de leur frère ou de leur mari ou de leur fils, eh bien le fait que le Hamas reconstruise la maison pousse cette famille dans les bras du Hamas. Donc on a exactement l'inverse de l'objectif recherché. On trouve d'autres contextes. Les stratégies asymétriques, on les a mieux développées lors des terrorismes qu'on avait, des terrorismes à l'époque marxiste. Enfin, à l'époque marxiste, à l'époque où il y avait encore des terrorismes marxistes, notamment en Amérique du Sud ou bien même l'été à Basque. Et l'idée de ces terrorismes, d'ailleurs, elle est exprimée clairement. C'est même pas moi qui l'invente, c'est dans la doctrine. C'est-à-dire qu'on crée du terrorisme pour provoquer une réaction violente de l'État. Et c'est cette réaction violente qui, elle, déclenche le processus révolutionnaire. Par conséquent, chaque fois que l'État réagit trop fort, il crée une impulsion révolutionnaire. Et c'est un système assez subtil, mais il faut le comprendre parce que l'État qui ne l'a pas compris ne dose pas son effort et participe donc activement au processus révolutionnaire. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme de l'asymétrie. Et dans le cadre du terrorisme djihadiste, c'est un phénomène analogue, mais avec des paramètres différents. C'est-à-dire qu'en Occident, on traduit toujours dans beaucoup d'ouvrages le djihad par guerre sainte. Or, djihad ne vient pas du mot guerre, qui, je parle sous votre contrôle, mais le mot guerre en arabe se dit harb. Djihad, c'est la notion d'effort, c'est la notion de résister, c'est la notion de s'efforcer à faire quelque chose. Transcendance, oui, dans le sens où on va au-delà d'un effort. Mais il y a un effet réactif, si j'ose dire. Le grand djihad, c'est la résistance aux tentations de ce bas monde, de rester dans la voie de Dieu et en ne succombant pas aux tentations du quotidien. Le petit djihad, celui qui conduit à la forme violente, c'est la résistance à une agression armée. Mais c'est une notion de résistance. En d'autres termes, si on ne comprend pas ça, chaque fois qu'on attaque, on aura une réponse. Et alors, pour simplifier le propos, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on pourrait dire que les djihadistes, pour accomplir le djihad, il faut avoir un peu le dernier mot. Par conséquent, vous comprenez bien qu'on est dans une situation très proche de ce que j'ai expliqué précédemment. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a quelque chose qui va venir en retour. Et donc, que pour détruire le terrorisme, il faut aller dans le sens inverse de la boucle. Il faut réfléchir en creux, ce que nous avons beaucoup de peine à faire, parce que ce n'est pas une réflexion qui est logique. Et d'ailleurs, je pourrais symboliser l'ensemble de cette réflexion pour dire comment est-ce qu'on peut dissuader par la mort un terroriste qui est prêt à mourir. Et vous aurez compris le sens de la symétrie.
C'est compliqué. Alors, on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de ces notions, notamment l'analyse marxiste, hein, qui est extrêmement importante dans votre livre. Franz-Olivier Gisbert, vous êtes né aux États-Unis d'un père américain et d'une mère française. Vous arrivez en France à l'âge de 3 ans. Après avoir collaboré à la page littéraire de Paris-Normandie, vous entrez au Nouvel Observateur en 1971, successivement journaliste politique, grand reporter, correspondant à Washington, chef du service politique et directeur de la rédaction de l'hebdomadaire à partir de 1985. En 88, vous êtes nommé directeur de la rédaction du Figaro et depuis 2000, directeur du Point. Vous publiez chez...
Ah, je ne suis plus maintenant.
Non, plus maintenant.
Retraité.
Retraité, ouais. Mais actif, hein, comme retraité.
Très actif, ouais. Oui. Très actif et je collabore toujours au Point.
Voilà, exactement.
Nous sommes partis en bon terme.
Vous avez un peu l'image du Point avec vous.
Oui, bien sûr. Oui. Et puis c'est un journal que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la nouvelle direction. Ce sont des gens que j'ai embauchés moi-même, d'ailleurs, à l'époque, formés, et que j'adore.
Très bien.
Voilà, et qui font un boulot formidable. Mais ce sont eux les patrons, c'est plus moi.
Vous publiez chez Gallimard un très bon roman, L'Arracheuse de dents. On en parlera, on en dira quelques mots à la fin de cette rencontre parce que les gens veulent aussi savoir ce qu'il y a dans votre roman. Mais c'est bien le journaliste qu'on a invité pour ce débat autour du terrorisme. L'asymétrie dont parlait Jacques Beau, est-ce qu'on en est conscient dans les rédactions aujourd'hui, à votre avis ? Ou pas encore assez ?
Non. Moi, je suis toujours frappé parce que quand on parle de terrorisme, on parle de manipulation. Et il y a quand même une grande naïveté, globalement, parmi les journalistes. Cette naïveté, vous l'avez retrouvée, par exemple, dans le traitement par la presse française des attentats de Turquie, qui étaient clairement des attentats de l'État islamique, très souvent commandités par la Turquie, enfin par Erdogan, par le pouvoir turc en place. Et vous avez vu... Dès le départ, il y avait des interrogations qui étaient possibles. Et en fait, cette hypothèse-là n'est apparue que tardivement, quand elle est devenue aveuglante. Et bon. Et je pense que c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'éducation de la presse, des médias, sur, par exemple, regardez, une affaire toute simple, là, qui m'a beaucoup frappé. C'est l'histoire des armes chimiques utilisées par Assad. Je ne dis pas qu'Assad n'utilise pas des armes chimiques. C'est un personnage épouvantable qui n'a pas hésité à massacrer sa population partout où il pouvait. Mais la célèbre affaire des armes chimiques, vous savez, qui est intervenue maintenant, on commence à voir ça d'ailleurs, qui est intervenue à un moment qui tombait bien, puisque un certain nombre de militaires, de politiques aussi, souhaitaient une intervention, d'ailleurs en l'espèce américano-française, puisque c'était ça qui était en question. Et comme par hasard, évidemment, l'affaire des armes chimiques tombe très bien. Bon.
Elle est sortie. Souvent, ces affaires tombent très bien. Hein.
Ouais. Vous vous souvenez, elle est sortie dans le Monde, ça fait 2-3 pages, c'était une grande affaire. Bon. C'est ce qu'on appelle en langage. C'était ce qu'on appelle un hoax aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est un truc totalement fabriqué. Pourquoi ? Bah, vous avez après des universités américaines de MIT, l'université de MIT, dans Massachusetts, qui font une étude un peu perverse, voilà, avec tout ça. Est-ce que c'est possible ? Ils regardent les lieux, etc., la balistique, la nature des armes, etc. Ils s'avèrent, ils écrivent, ils sont absolument déterminés. C'est une opération, enfin les armes chimiques, c'était une opération de l'État islamique. C'était pas Bachar pour une fois qui était impliqué là-dedans, c'était l'État islamique. Donc vous avez une espèce de... La guerre a failli se faire à partir d'une fausse information, mais d'une manipulation. Puisque les services français, les services secrets français et la France souhaitaient intervenir rapidement, ont expliqué partout que c'était en fait Bachar qui avait fait ça. Un grand journal du soir reprend l'information. Et extraordinairement, moi c'est ça qui m'a fasciné le plus, et là on voit à quel point d'ailleurs on a un problème dans les médias français. Moi je me suis permis de faire un éditorial dans le Point qui avait posé problème à mes successeurs. D'ailleurs ils disaient putain tu y vas, etc. Bon, mais j'y suis allé En reprenant le texte du MIT, qui a d'ailleurs été après tamponné par l'ONU. Hein, donc c'est pas du tout, c'est pas quatre professeurs farfelus qui ont fait ça. C'est une histoire, voilà, qui ont voulu voir d'où ça venait et qui avait évidemment flairé une forme de manipulation dès le départ, parce que c'est sûr que cette attaque aux armes chimiques, elle collait trop bien, elle arrivait trop bien à pic, etc. Bon, eh ben j'ai fait un article, disons, qui n'était pas agressif contre le monde, mais qui mettait les choses au point, d'autant plus que cet article avait reçu un prix important, donc le journal s'en était vanté. Donc c'était un peu une agression, faut bien dire. Pas de réponse, jamais. Pas de réponse. C'est-à-dire, vous voyez, il y a... Donc là, vous avez... mais c'est le problème de la presse très souvent. Mais vous avez, oui, un problème qui est posé, une manipulation, il y aura un mouchoir dessus. Je ne dis pas que les journalistes du Monde qui sont sérieux ne sont pas convaincus aujourd'hui que c'était une manipulation. Je pense que oui. Mais enfin, bon, bref, ils ont publié et ils sont passés à autre chose. Vous voyez ? Donc c'est ce problème qu'on a. Et c'est comme ça aussi qu'on n'éduque pas suffisamment à la fois nos lecteurs, les journalistes eux-mêmes. C'est-à-dire, ces histoires de terrorisme, et M. Beau, je suis sûr, témoin, elle sera d'accord, il faut savoir, d'ailleurs, comme dans notre métier de journaliste en principe, c'est-à-dire changer de pied. Ouais. Changer d'opinion. On découvre.
Un des problèmes qu'on a, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire qu'un événement chasse l'autre et puis on ne revient pas.
Mais ce n'est pas seulement ça. Je pense que c'est un manque de modestie par rapport à l'événement. Je pense que le bon journaliste, il doit être modeste, c'est-à-dire ne pas hésiter à se contredire régulièrement. Et quand il publie une information, de ne pas hésiter même à la contredire s'il y a des éléments de contradiction. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre de moins en moins dans la presse depuis plusieurs années. Moi, je suis frappé de ça. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Il y a une sorte de martèlement comme ça permanent. Et ça, vous l'avez également, d'ailleurs, un peu aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, il y a une espèce d'école journalistique qui fait que si une information tombe, on va chercher à la décortiquer, de voir le mauvais côté, qu'est-ce qui se passe. Il y a encore un peu ça. Mais ça s'émousse.
Vérification et recoupement. Alors brièvement, Jacques, je dois présenter Yasmine Akadra.
Il faut bien distinguer deux choses. Le travail du journaliste, le travail d'information. Quand on travaille dans le renseignement, on a souvent dit que c'était deux métiers qui étaient connexes ou qui se ressemblaient. En fait, pour un service de renseignement, ce qu'il écrit déclenche quelque chose. C'est ça la grande différence. C'est qu'il déclenche quelque chose, formellement, parce qu'il entre dans un mécanisme de décision. Par conséquent, pour un service de renseignement, il s'agit, avant de lancer une information, qu'elle soit pas seulement vérifiée, mais qu'on soit sûr qu'effectivement... Et c'est la raison pour laquelle, lorsque, dans l'exemple que vous citez, d'armes chimiques, que je détaille d'ailleurs par le menu dans mon livre, lorsque Hollande, se basant sur la note des services de renseignement qui a été rendue publique d'ailleurs, a voulu agir, les Américains et Obama s'est prudemment mis en arrière parce que au-delà de ce que le MIT a écrit, effectivement, ce rapport extrêmement intéressant, les services de renseignement étaient arrivés à la même conclusion. Donc il y a eu deux choses qui a fait hésiter Obama, et c'est la raison pour laquelle Obama ne s'est pas lancé dans la décision, et Hollande a dû en fait piétiner un peu d'impatience derrière. Voilà, pardon.
Merci. Yasmine Akadra, vos romans sont traduits dans plus de 40 langues. Vous avez été adapté au théâtre dans plusieurs pays, en bande dessinée. Certains de vos livres sont portés à l'écran. Vous avez co-signé le scénario de La Voix de l'ennemi avec Forest Whitaker et Harvey Keitel. Co-signé également le scénario de La Route d'Istanbul. Les deux films réalisés par Rachid Bouchareb. Ce que le jour doit à la nuit a été adapté au cinéma par Alexandre Arcadi en 2012. L'attentat a reçu entre autres le prix des libraires en 2006 et a été traduit dans 36 pays. Son adaptation cinématographique par Ziad Douairi est sortie sur les écrans en 2013. Vous publiez chez Julliard un très joli roman qui s'appelle Dieu habite la Havane. C'est une... N'habite pas la Havane, vous voyez. Il a déménagé entre deux. C'est à la fois une formidable histoire d'amour, d'amour fou, d'amour total, mais j'ai l'impression que vous avez un amour pour Cuba dont vous parlez extrêmement bien, et notamment de sa musique. Vous avez un amour pour Cuba qui est presque un amour fou.
Bonjour, ça a été un coup de foudre. Moi, j'ai jamais été là-bas. J'étais allé en repérage parce que j'avais écrit un livre sur Cuba, l'histoire d'un pêcheur cubain qui sera incarné à l'écran par Forest Whitaker, cet acteur que j'adore. Et puis, pendant qu'on était là à essayer de vérifier si mon scénario tenait la route, j'ai découvert ce pays et surtout ce peuple. Et ça a été un enchantement pour moi, un coup de foudre. Et pendant 10 jours, je ne faisais que ça. J'étais comme un buvard, j'absorbais tout ce que je voyais. Et je me suis dit qu'il fallait absolument écrire un livre sur ce pays. J'ai écrit le livre en septembre 2014. Donc c'était avant l'arrivée du pape. Et voilà.
On en dira aussi quelques mots à la fin de cet entretien, parce que c'est vraiment un très beau roman et je vous poserai quelques questions à son sujet. Mais on va s'intéresser à votre carrière précédente. Hein. Votre père était déjà officier de l'armée de libération nationale. Il a été blessé en 1958. Il vous envoie, vous, son fils, à l'âge de 9 ans, dans un lycée militaire. Et il fait de vous un officier. Vous effectuez toutes vos études dans des écoles militaires avant de servir comme officier dans l'armée algérienne pendant 25 ans. Durant la guerre civile algérienne, dans les années 90-90, vous êtes l'un des principaux responsables de la lutte contre l'armée islamique du SLALU, puis contre le groupe islamique armé, le GIA, le fameux GIA, en particulier en Oranie. Vous atteignez le grade de commandant. Ça correspond à quoi dans l'armée française, par exemple, pour que tout le monde se rende bien compte? C'est haut.
Ça correspond un petit peu à la place de l'athlète con qui arrive quatrième, qui n'est
d'accord,
pas
sur le podium. C'est-à-dire qu'il n'est juste pas sur le podium.
Oui, parce que j'étais écrivain dans l'armée, et c'est pour ça que j'ai été ajourné.
D'accord.
Et tous mes subordonnés ont fini colonel et généraux, et moi je suis resté pendant 3 années dans le même grade de commandant.
De commandant, ok. Ouais. Pardon, je ne savais pas, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais voilà.
En Suisse, ce serait major.
C'est pas mal déjà.
Commandant de bataillon.
Oui, c'est pas mal déjà.
Non, mais c'est
voilà. Alors je reviens sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Cette fameuse asymétrie, vous devez savoir parfaitement de quoi il s'agit.
Oui, le problème aujourd'hui, c'est que le journalisme n'est plus dans l'information, il est dans l'opinion. Et ça, c'est le plus grand danger qui puisse exister au monde. Moi, je me rappelle, j'ai fait pendant 8 années la guerre contre les terroristes. J'ai perdu mes meilleurs amis. Je faisais 51 kilos pour un officier supérieur. Et mes photos ont été 3 mois après la guerre. On a pris des photos de moi, on aurait dit quelqu'un qui est face à un peloton d'exécution quelque part en Somalie. Mais ça n'a pas intéressé les gens. Et j'ai écrit mes livres pendant que je menais la guerre contre le terrorisme. J'étais le principal concepteur de la lutte antiterroriste dans toute l'Oranie. J'avais 12 départements et c'était moi qui concevais toutes les opérations contre justement ces gens-là. J'étais le patron de la reconnaissance. Et j'ai essayé d'alerter parce que j'étais persuadé de mourir. Mes hommes, mes plus proches collaborateurs sont pratiquement tous morts ou blessés. Moi, je suis resté vivant. D'ailleurs, c'est une culpabilité assez dure à porter. Et j'ai écrit « Les années du Seigneur » et « À quoi rêvent les loups ». J'ai écrit aussi une trilogie sur le commissaire Loeb qui racontait un petit peu ce qui se passait derrière le terrorisme. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de richesses. J'étais venu en France en 2001, en passant par le Mexique. Et j'étais devenu en quelque sorte l'espion, l'homme du système. Parce que tout simplement à l'époque, il y avait une campagne absolument criminelle contre le peuple algérien qui faisait croire qu'en Algérie, les militaires, c'était eux les assassins et qu'il n'y avait pas de terroristes. Et je disais à l'époque, ça va vous arriver. Ils viendront prendre vos enfants et ils vous feront la guerre. À l'époque, l'Algérie se battait non pas pour sauver son âme, mais pour essayer de, peut-être même de sauver l'humanité. Et moi, qui étais sur place, je savais que ce n'était pas seulement un problème endémique, que ces gens-là avaient un projet apocalyptique qui visait pratiquement toute la planète. Et voilà, maintenant, ils sont partout. Les gens qu'on a protégés, ils sont partout. Ils sont venus jusque dans nos écoles. Ils sont venus dans nos salles de fête. Ils sont venus sur nos terrasses assassiner les êtres que nous aimons le plus. Voilà, c'est ça le drame de l'humanité, c'est ça. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'interprétations honteuses, scélérates, qui pour moi n'ont pas beaucoup de différence entre les agissements d'un terroriste et le mensonge qui fait croire qu'il n'y a pas de terroriste.
Jacques Beau, vous dites au début de votre livre que nous avons une perception très ethnocentriste du problème terroriste, avec cette analyse teintée de marxisme, hein, c'est-à-dire on applique au terrorisme d'aujourd'hui l'analyse qu'on appliquait au terrorisme marxiste de l'époque. Et c'est ce qui fait que finalement on n'y répond pas de la manière adéquate aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on change cet état de fait, pour qu'on arrête de faire cette analyse selon des méthodes qui n'ont plus aucun résultat?
Alors effectivement, quand on observe ces 25 dernières années, on s'aperçoit que malgré tout les efforts, les bombes, les guerres qu'on a créées un peu partout, le terrorisme n'a fait qu'augmenter. Ce qui commence aujourd'hui, d'ailleurs pas seulement dans mon livre, mais aussi dans de nombreux cercles aux États-Unis en particulier et en Europe, c'est de se dire probablement on a pris le problème par le mauvais bout. Et que chaque guerre, en fait, ou chaque bombe qu'on lance ajoute une dimension au problème. Et effectivement, moi je reçois en continu pratiquement toutes les informations, les communiqués de l'État islamique et des autres factions qui se battent en Syrie, et elles ont toutes un point commun. Ils disent tous « arrêtez de nous bombarder ». D'ailleurs, très récemment, une vidéo qui est parue, qui visait le public français, et qui disait en substance, vous êtes prêts à aller dans la rue et protester pour une heure de moins de travail ou quelques semaines de plus de vacances, mais en réalité, vous ne vous battez pas pour qu'il y ait moins de morts en Syrie. Et c'est exactement ce qu'il dit. Une autre vidéo qui a été publiée il y a environ 2 mois avait pour titre « Votre silence sera votre mort ». Et on est exactement dans ce schéma-là. Or, le danger qu'il y a aujourd'hui en Europe, c'est que, et on le voit très bien dans le discours qui est officiellement porté, entre autres, par le Manuel Valls, etc., c'est le discours d'un fatalisme qui est attaché au terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme est là. Il va nous tomber dessus à un moment ou à un autre.
Mais Valls lui-même, il va continuer.
Oui, il nous dit même qu'il va continuer. Bon, mais ça c'est pas un mystère. Mais ce qui est dramatique, la phrase d'ailleurs qu'il a à peu près, je peux la citer à peu près mot pour mot, il dit la France n'a pas été touchée pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Donc il y a un côté totalement fatal, et simplement le fait qu'on soit démocrate génère du terrorisme. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Moi-même, j'ai eu des contacts avec des groupes islamistes dans des situations de conflit. Et je n'ai jamais eu ce sentiment que les gens nous en voulaient simplement parce qu'on était chrétien ou parce qu'on était blanc ou parce qu'on était démocrate, etc. Mais ils répondent, et de nouveau, on est dans l'élément asymétrique que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est une réponse. C'est une réponse à une sollicitation. Et tant que nous n'aurons pas, nous, compris que les guerres que nous avons déclenchées, il n'y a pas une seule guerre entre 1978 ou 78 et aujourd'hui, au Moyen-Orient, qui n'a pas commencé par un mensonge de notre part. Pas une seule. Toutes sont d'ailleurs décrites et tous les mensonges qui sont décrits. On a falsifié. Tout le monde pense que la guerre en Afghanistan a commencé parce que les Russes étaient intervenus en Afghanistan. Mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question pourquoi les Russes étaient intervenus en Afghanistan? Eh bien, il n'y a qu'à lire les mémoires du directeur de la CIA. C'est parce que dès 1978, les Américains ont décidé qu'ils devaient éliminer le gouvernement socialiste. Et en fait, l'intervention soviétique n'a été qu'une réponse à ça pour essayer de protéger le gouvernement. Même une guerre qui nous semble très, très, très simple à comprendre, la guerre du Koweït en 1990-1990, où on a pensé que Saddam Hussein, dans sa folie, a décidé d'attaquer le Koweït. Alors les raisons profondes, techniques, je ne vais pas les donner, mais ce qu'on sait rarement, mais qu'on trouve dans les comptes rendus, d'ailleurs, on le trouve dans les comptes rendus des commissions d'enquête du Congrès américain, une semaine avant d'attaquer le Koweït, Saddam Hussein a convoqué l'ambassadrice américaine et lui a dit qu'il souhaitait attaquer, qu'il demandait l'avis des Américains. L'ambassadrice lui a simplement dit « Faites ce que vous voulez, tant que ce soit fait rapidement, nous, ça ne nous intéresse pas. »
Oui.
C'est exactement. C'est une affaire entre arabes, ça ne nous concerne pas. Alors ça, c'est des épisodes que nous avons aujourd'hui complètement évacués de notre histoire. Quand au Conseil de sécurité après l'intervention au Koweït, les Américains ont voulu mobiliser, enfin avoir une résolution pour pouvoir intervenir. Il y avait évidemment la France, la Chine et l'URSS, enfin la Russie, pardon, excusez-moi, qui étaient opposés à une résolution. Alors il a fallu changer ça. Comment est-ce qu'on l'a changé? On a créé un événement qui a été déterminant dans la décision du Conseil de sécurité. On a créé un événement de toutes pièces qui a été la mise à sac de la maternité de Kuwait City. C'est une affaire montée qui ne s'est jamais déroulée. C'est une compagnie de relations publiques britannique qui a été mandatée pour créer l'événement. On a fait venir des témoins, des faux témoins, qui ont témoigné devant une commission du Congrès. Notamment, parmi ces témoins, il y avait la fille qui est venue sous un autre nom et comme soi-disant infirmière, mais qui en réalité était même la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, qui a témoigné qu'elle avait vu les soldats koweïtiens, etc. Les vidéos qui ont été faites ont permis de débloquer la situation au Conseil de sécurité en 3 jours. Donc voilà, et je passe, continuer sur l'Afghanistan, on pourrait continuer sur naturellement la guerre en Irak en 2003.
Mais avant de continuer, oui, je crois que François-Olivier Gisbert a envie de réagir. Je le vois noter beaucoup depuis que vous parlez, Jacques Baume, il a plein de choses à nous dire, visiblement.
Je suis en désaccord absolument total.
Ah bah c'est bien, on va avoir un vrai débat, c'est formidable.
Parce que qu'est-ce qu'on vient de nous servir, c'est toujours la faute à l'Occident. C'est notre faute à nous. C'est à nous, c'est parce qu'on a cherché la guerre. Alors, tous les exemples cités, je suis d'accord. C'est-à-dire le nombre de mensonges, le nombre de fausses opérations, de manipulations, tout ça, évidemment, je suis d'accord. J'étais un adversaire absolument résolu de la dernière guerre du Golfe, pas de la première, mais en tout cas de la dernière guerre du Golfe, dont on voyait les effets à venir. On les voyait. C'était une histoire totalement aberrante. Bon, bref. Et les mensonges qui ont été dits à cette occasion. Mais de dire que c'est de notre faute, à mon avis, c'est... Enfin, il faut lire un peu les journaux. Votre compétence en matière de renseignement est incontestable. Mais si vous lisez un peu les journaux, vous voyez bien que la Tunisie, qui n'a jamais rien cherché, qui n'a rien fait, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de main, c'est un pays faible. La Tunisie a été massacrée. L'économie tunisienne aujourd'hui a été massacrée par ça. Regardez la situation aujourd'hui en Europe. Quel est le pays qui réagit le moins? Le pays le plus pacifique, c'est l'Allemagne. L'Allemagne aussi est attaquée aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire l'idée qu'on est attaqué parce qu'on fait du mal. Oui, bien sûr, on fait du mal. Non. Ça, je n'ai pas dit le contraire. Mais de nous expliquer que c'est de notre faute, moi, je pense qu'on n'en peut plus de ce genre de discours parce que ce n'est pas vrai. Il y a un projet. Il y a des pays qui sont plus attaqués que d'autres parce que, par exemple, en France, il y a un vivier salafiste qu'on a laissé se développer. Il y a un vivier salafiste que vous n'avez pas en Allemagne, que vous n'avez d'ailleurs pas du tout en Italie. Il suffit de circuler en Italie. Il y a un vivier salafiste qui est utilisé par ces gens-là. Donc il ne faut pas expliquer à chaque fois qu'il y a un attentat que c'est de notre faute, parce que ce n'est pas vrai. Il faut en finir avec les sanglots de l'homme blanc et puis être un peu nous-mêmes et un peu courageux.
Mais il faut être courageux, mais il faut être aussi lucide et intelligent. L'Allemagne est attaquée pourquoi maintenant?
Je
suis intelligent d'une manière générale.
Je ne suis pas con, hein.
Non. C'est pas ce que je suggérais. Mais il faut que nous ayons une compréhension intelligente des choses. Pourquoi l'Allemagne est attaquée aujourd'hui alors qu'elle n'a pas été attaquée avant? C'est parce que l'Allemagne a décidé de rejoindre la coalition qui se bat en Syrie et en Irak, tout simplement. Et pourquoi la Belgique a été attaquée? Elle a été attaquée à partir du moment où elle a décidé de rejoindre la coalition. Et la France, exactement la même chose. Donc avant, l'Allemagne n'était pas une cible. L'Allemagne n'a pas été...
L'Allemagne était une cible bien avant. Vous souvenez-vous des tentatives d'attentats qu'il y a eu, qui ont été déjouées? Parce que l'Allemagne a une spécificité, c'est vrai, c'est qu'elle déjoue plus facilement les tentatives d'attentats que nous. Non. Mais il y en a eu, bien sûr, oui, bah oui, évidemment.
Non, il y a les vous regardez de nouveau, regardez les journaux. Sinon, il faut lire tous les journaux.
Non, mais j'ai l'impression qu'il était parti à l'étranger quand il y a eu la vague d'attentats en Tunisie. C'est ça le problème. Parce que la Tunisie, la Tunisie a toujours eu une ligne, comment dire, est en dehors de tout ça depuis le début. Donc ça contredit totalement votre thèse.
Non.
Totalement.
Alors, on va vous laisser vous contredire tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Yasmina Khadra aussi. Comment vous ressentez les choses? Ce que dit Jacques Beau, mensonge. Les deux ont raison. Vous feriez un très très bon diplomate, Yasmina.
Non, mais c'est vrai, je vais expliquer pourquoi.
Bravo pour ce pilote.
Les deux ont raison.
D'accord.
Le problème, c'est que le mobile s'il explique le crime, ne le légitime pas. Et on est exactement dans cette vision-là. C'est vrai que l'Occident a fait pas mal de mal à nos pays. Mais la réaction, l'islamisme, ce n'est pas une réaction à ce qui s'est opéré chez nous. C'est d'abord une désobéissance civile armée. Ça a commencé par nos régimes à nous, parce que nos régimes ont été infectés, ils étaient odieux. Ils ont empêché une jeunesse de s'épanouir. Ils ont empêché le talent de faire rêver un peuple. Et d'un seul coup, ça a été l'implosion. Et peut-être qu'avec la manipulation, parce que la manipulation, elle est partout, on dit à ces gens-là que le régime, il est soutenu par l'Occident. Et par voie de conséquence, l'Occident devient aussi l'ennemi des islamistes. Or, pour moi, ce qui me terrifie, ce n'est pas la guerre. J'ai fait la guerre contre les islamistes et j'ai la prétention de croire que je les ai vaincus. J'ai fait 8 ans de guerre, j'avais 7561 terroristes sur mon terrain. Quand j'ai quitté mon poste, ils étaient 123 ou bien 132. Je peux me tromper sur les chiffres. Je ne sais pas si les deux étaient avant le 3. Ou... Je vous assure, ils étaient 132 ou 123 terroristes complètement clochardisés. Mais ce n'est pas une raison de croire que ces gens-là se battent pour l'islam. C'est ça le danger. Aujourd'hui, on dit ce sont des musulmans. Mais pourquoi on ne me voit pas? Pourquoi ne voit-on pas le musulman en moi? Moi, je suis un musulman pratiquant. Je n'ai pas attendu l'avènement du salafisme pour devenir musulman. Je pratique depuis l'âge de 9 ans. Je suis même un hajj. Et cette religion m'a permis d'être moi-même, d'accepter ce qui me frappe, comme Omar Khayyam me le disait. Il faut pas frapper ceux qui te frappent. Il faut continuer ton chemin. Voilà. Ces gens-là, ils ne croient en rien. Ce sont un contingent de tueurs en série qui a trouvé tout simplement la plateforme de sa propre impunité et qui agit contre les musulmans, contre les chrétiens. Ils trouvent un prétexte à son crime parce qu'aucun homme ne peut accepter le crime. La barbarie, c'est quelque chose qui est d'une animalité totale et qui provoque un dysfonctionnement dans l'esprit des gens. Donc, pour essayer de vivre cette horreur, ils essaient quand même de s'appuyer sur des prétextes qui sont complètement faux. Et aujourd'hui, il faut arrêter de parler de l'islam, il faut arrêter d'associer l'islam à ces gens-là, puisque ces gens-là n'hésitent pas à mettre des bombes dans des mosquées où il y a Bismillahirrahmanirrahim, où il y a Mohammed Rasulullah et où il y a des musulmans en train de prier. Donc voilà. Peut-on appeler croyant un homme qui vient devant une école juive et qui voit arriver une petite fille, un petit ange merveilleux et qui sort son flingue et qui l'abat? Est-ce que c'est un croyant? Est-ce que c'est un être humain? Ce n'est pas un être humain. Donc c'est à nous, au peuple, je dis bien, parce que nous sommes tous manipulés. Le peuple doit faire la part des choses. Il faut absolument dissocier ces criminels de la communauté qu'ils croient défendre et de la religion qu'ils croient représenter. Et de cette manière, nous allons les isoler. C'est exactement ce que nous avons fait en Algérie. Au début de la guerre, tous les Algériens étaient pro-fils. Tous les Algériens étaient islamistes. Mais quand ils ont vu, quand ils ont compris que ces gens-là étaient les ennemis de l'humanité entière, c'est comme à partir de ce moment qu'on a commencé à se rebeller et à les attaquer et à les tuer. Et nous avons réussi à les combattre. Aujourd'hui, ils sont revenus, en Algérie, les islamistes sont redevenus ce qu'ils ont toujours été. Des commerciaux. Ce ne sont que des boutiquiers, des gens qui cherchent l'argent, qui cherchent la fortune, point barre. Et ils ne connaissent même pas Dieu. Dieu tremble. Dieu, quand il voit un islamiste, il tremble pour toute sa création. Voilà ce que je dis.
Merci Yasmina Khadra. Jacques Beau, il y a des choses importantes dans ce que vient de dire Yasmina Khadra. Il parle de manipulation. Vous, dans votre livre, par rapport au printemps arabe, vous êtes assez nuancé aussi. Hein.
Alors, tout à fait. Non, je pense que d'abord, une chose qui est importante et qui vient d'être dite, c'est qu'il ne faut pas, confondre, expliquer et légitimer. Ça, c'est essentiel. Simplement, si on veut traiter le problème, il faut le comprendre comme il faut. Il faut le comprendre dans toute sa nudité. Et il faut le comprendre avec toute l'honnêteté, sans quoi on ne le traitera jamais. Et cette compréhension, elle doit aller au-delà de ce qu'on ressent, des passions, des émotions qu'on puisse avoir. Et ça c'est un élément important. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais de nouveau, vous avez évoqué l'affaire Mera en filigrane. L'affaire Merah, elle n'est pas tombée du ciel. L'affaire Merah, elle suit d'ailleurs les déclarations de Mohamed Merah qui a fait ces crimes, qui sont tout à fait, qu'on ne peut que condamner. Néanmoins, dans quel contexte ça arrive ? Alors évidemment, en France, on l'a déconnecté de tout ce qui se passe en dehors de la France. Mais en réalité, c'était une réponse à ce qui venait de se passer à Gaza, n'est-ce pas ? Et ça a été, à tort ou à raison, parce que de nouveau, et je partage aussi cet avis, ces gens ne sont pas nécessairement des bons musulmans. D'ailleurs, on l'a, et même pas musulmans. Enfin,
ils ne sont même pas croyants. Non,
oui, mais effectivement, quand on voit, par exemple, les derniers exemples à Nice qu'on a eu, on a des gens qui sont... On se demande même s'ils ont une fois été dans une mosquée. Enfin, je crois que ça soutient exactement ce que vous dites. Et un danger qu'on a, c'est aussi de penser qu'il y a une guerre de religion qui est mise en place. Ça n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre qui utilise la religion comme une plateforme, mais ça n'est pas une guerre de religion. Donc quand on fait, et on a eu beaucoup de discours, à mon avis, très faussés sur la question burkini et autres, enfin, ça, c'est un petit peu des épiphénomènes, mais qui sont révélateurs d'une mauvaise compréhension du phénomène. On n'est pas dans une guerre de religion. L'islam n'est utilisé que comme une plateforme, un logiciel de base, si vous voulez. Mais les gens qu'on voit se battre ne sont pas nécessairement des bons musulmans. Enfin, ils sont musulmans sur la carte d'identité, mais ils ne sont sans doute pas des croyants, selon votre...
Non, ce n'est pas mentionné dans les cartes. Hein,
J'entends bien, mais je vais expliquer. Ils sont formellement, mais pas...
Moi, je les ai combattus. Je les ai vraiment combattus. Le son, c'est bon ?
Oui, on monte un tout petit peu votre micro.
Oui, je les ai vraiment combattus pendant 8 années. Et je vous assure qu'il y avait parmi ces gens-là des gens qui ne savaient même pas réciter un verset coranique. Je le jure devant Dieu et les hommes. Ils ne savaient même pas réciter. Et quand ils parlaient, par exemple, quand on les entendait, on les écoutait, quand ils parlaient d'un attentat ou d'une embuscade, ils parlaient avec mépris de ces morts. C'est-à-dire, oui, c'est un officier, mais quand même, on l'a tué. Donc, il y avait une sorte de jalousie qui est née, justement, de cette fracture sociale. Voilà. Et rien ne légitime. Mais on s'en fout qu'on vienne m'expliquer pourquoi, parce qu'à Gaza, il y a eu ceci ou cela. Ça ne justifie pas. Ça n'explique pas. Comment un homme est allé tuer une enfant de 3 ans, ça n'a rien à voir. C'est vrai, on peut trouver des explications, on peut trouver des prétextes, mais on ne peut pas trouver de la légitimité. Et l'essentiel pour nous, c'est de comprendre, de situer la légitimité.
Alors, par rapport à cette notion d'émotion qui prennent parfois le dessus, il y a des choses intéressantes dans votre livre aussi, Jacques Beau. Vous dites qu'il y a un décalage qui a tendance à devenir systémique entre les organes de renseignement qui, eux, sont au courant de la réalité du terrain, et l'establishment politique qui a tendance à agir de manière idéologique, c'est-à-dire émotionnelle.
Alors, émotionnelle, pas vraiment, mais avec des calculs qui sont souvent tactiques, d'ordre tactique et de court terme.
Mais qui utilisent l'émotion
qui utilisent l'émotion, typiquement, ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'attaque pas la France pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Donc, c'est une distorsion simplement des faits, tout simplement. On s'aperçoit d'ailleurs, de manière assez intéressante, que les guerres sont souvent déclenchées par des gouvernements faibles, qui recherchent à l'extérieur les succès qu'ils n'ont pas obtenus à l'intérieur. C'est à peu près systématique, quand bien même il est toujours, il faut toujours nuancer qu'est-ce qu'on appelle succès. Mais donc là, il y a des calculs qui sont politiciens, si j'ose dire, et qui ne sont pas nécessairement des calculs à long terme. Vous voyez, par exemple, l'exemple plus typique, c'est sans doute la Libye, où on est allé renverser Kadhafi. Alors, je n'ai pas d'état d'âme sur M. Kadhafi, si c'était bon, méchant, bien. Mais ce qu'il y a de sûr,
Si vous voulez savoir, il faut lire le roman précédent de Yasmina Kadra, qui s'est mis dans la peau de Muammar Kadhafi. C'est très intéressant de le lire.
Il me manque.
C'est très intéressant de le lire.
Le propos ici, indépendamment de ce qu'on peut penser de Kadhafi, c'est qu'on l'a renversé sans savoir qui allait venir après, tout simplement. Donc on savait, il était déjà presque évident qu'un chaos allait naître de ce phénomène. De nouveau, je ne veux pas ici discuter de savoir si Kadhafi était quelqu'un de recommandable ou pas. Ce n'est pas le propos. Pas plus que Saddam Hussein, pas plus que Bachir al-Assad, etc. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si on l'enlève, on sait qu'on crée un problème qui va être beaucoup plus important. Ou en tout cas, les services de renseignement avaient identifié ça, mais les politiques ont fait fi de ce genre d'appréciation. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'en réalité, pour remonter un petit peu dans les sondages, on est prêt à sacrifier finalement des pays, des populations, des peuples, pour simplement quelques pourcentages de plus dans un sondage.
Moi, je peux me tromper, mais je crois que Kadhafi n'a pas été tué parce que c'était un tyran, mais parce qu'il ne voulait pas partager la galette libyenne. C'est tout. Il était là depuis 40 ans, ça ne dérangeait personne. Mais à un certain moment, on lui a pardonné toutes les monstruosités du monde. Le peuple français, vous vous rappelez, était horrifié quand il l'a vu débarquer. Voilà. Mais c'était quelqu'un qui promettait mont et merveille. Il avait besoin de 5 centrales nucléaires, il avait besoin de développer le désert, créer le plus grand lac du monde, équiper son armée qui était l'armée la mieux équipée d'Afrique. Et bien sûr, les gens, les commis voyageurs qu'on appelle les présidents et les chefs d'État, ils étaient très intéressés, donc ils ont pardonné à ce criminel ses crimes. Et puis, une fois rentré chez lui, il oubliait de signer les contrats et de tenir ses promesses. Et ça a agacé beaucoup de gens. Surtout ces gens qui se prenaient pour des géants qui, finalement, n'ont été que des nains devant lui. Donc, ils l'ont puni, point barre. Moi, je peux me tromper, mais c'est mon explication de ce qui s'est passé.
François-Olivier Gisbert, on arrive à trouver un point de convergence avec Jacques Beau sur ce qui a été dit tout à l'heure, ou vous n'êtes pas d'accord? Prenez un micro.
Oui, moi, je suis d'accord sur toutes ces manipulations qu'il raconte. Je suis d'accord à 100% avec lui. Je ne suis pas d'accord sur les conclusions qu'il tire de tout ça. Je ne suis pas d'accord du tout parce que je ne sais pas si c'est du conspirationnisme, du complotisme. Je sais pas, mais je ne comprends pas son raisonnement. C'est-à-dire qu'on voit très bien que l'État... laissez-moi terminer juste un moment. Si je peux me permettre. L'État islamique, quand on nous explique qu'il est toujours sur la défensive, ce n'est pas vrai. Si on regarde l'histoire, non. Il fait des offensives. Il va là où il peut aller et il cherche. Bon. Alors, cette phrase de Valls, je ne joue pas là pour défendre Valls, évidemment, elle est un peu approximative, parce que c'est plus compliqué que ça. Évidemment, la réalité d'un problème comme celui de l'État islamique, ça ne se résume pas en une phrase, c'est évident. Bon. Ensuite, les objectifs de guerre, vous l'avez dit, mais je suis d'accord là-dessus. C'est-à-dire, souvent, ils sont un petit peu naïvement... est-ce que c'est juste pour monter dans les sondages? Je ne suis pas sûr, parce qu'une guerre, c'est toujours dangereux pour un politicien. Là, je pense que vous avez une vision un petit peu rapide de la politique. Oui, ça, c'est peut-être une vision qui ressemble plus à celle des séries américaines, mais je pense qu'il n'y a pas seulement le calcul de « je vais gagner des voix », il y a aussi une part de « là, il faut arrêter », là, par exemple, on sent... peut-être une pression de l'opinion, mais on est embêté quand, par exemple, on voit ce qui va se passer en Libye. Donc cette opération, moi, contre laquelle j'étais, de Nicolas Sarkozy et de David Cameron, elle était mal engagée dès le départ. Bon, c'est clair, parce qu'il y avait des buts de guerre qui n'étaient pas très clairs. Si on va renverser Kadhafi, effectivement, pour mettre qui? Mais bon, en même temps, il y avait l'espèce de massacre qui était en cours, qui commençait, qui allait se développer. Oui, je suis désolé. Non, mais enfin, il a tué. Enfin, on va pas me dire qu'Kadhafi n'a pas tué beaucoup de.
Il a sans doute tué. Il n'y avait pas de massacre.
Vous savez ce qu'on va faire? Vous avez parlé l'un après l'autre comme ça, tout le monde va comprendre. Je vous laisse. Non, François-Olivier Gisbert.
Non, je lui redonne la parole puisque de toute façon, il souhaite la garder. Et puis voilà.
Non. Mais commencez pas comme ça. Vous allez vous mettre tout le monde à dos.
Non, mais sur les mensonges, tout ce qu'a dit. Yasmina Kadra est juste. C'est-à-dire, les mensonges, il y a eu un nombre de mensonges sur la guerre du Golfe, sur les deux guerres du Golfe. Il y a des mensonges en permanence. Et là, je suis d'accord avec vous.
Jacques Beau, tactiquement, vous êtes complètement encerclé, là.
Non.
Oh, il n'y a aucun problème.
Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ça. Le seul souci, si vous voulez, c'est de nous expliquer toujours à chaque fois que c'est de notre faute, que c'est en réaction. C'est beaucoup plus simple, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez très bien, l'histoire du califat, c'est un vieux rêve. Je suis désolé quand même de beaucoup de musulmans, parce qu'il y a quand même beaucoup de musulmans dans tout ça. Ils ne sont pas tous des commerçants. Alors, il a dit quelque chose de très juste, Yasmina Kadra, avec le côté boutiquier. Bon, moi, je pense qu'ils sont plus musulmans quand même qu'il le dit, parce que l'islam, c'est comme le catholicisme. Il y a toutes sortes de chrétiens, il y a toutes sortes de musulmans. Bon, et ils sont musulmans aussi à leur façon, en tout cas. Ils semblent l'être. Pas tous, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de... Sur le côté boutiquier,
le califat, c'est un peu un projet à l'Europe, l'Union européenne, c'est tout. Donc, ils peuvent utiliser l'islam comme un facteur commun pour essayer de construire une espèce d'union. Ouais. Mais l'islamisme n'a rien à voir avec ça.
Mais non, mais on est d'accord, l'islamisme, c'est pas l'islam en est d'accord, c'est une dégénérescence, une dérive, mais il y a sa part, disons, d'un terreau commun, c'est ça.
Je vais essayer de recentrer les choses.
On peut pas dire qu'ils ont oublié Allah, d'ailleurs. On connaît leur choix commun. Juste, si je peux me permettre, une petite seconde. Non, vous voulez intervenir tout de suite.
Oui, parce que
l'embête, c'est-à-dire. Mais non, mais allons-y. C'est notre faute. À chaque fois, c'est notre faute.
Il faut aller dans les faits.
C'est la faute de l'Occident. C'est la faute de l'Amérique. C'est la faute de la CIA. On est vraiment dans une série.
Non, pas du tout.
Je vais recentrer.
D'abord, il n'y a pas de conspirationnisme.
Jacques Beau, je vais recentrer parce que ce que vous dites dans votre livre est en partie une réponse à ce que vient de dire François-Olivier Gisbert. Vous dites que.
Vous êtes deux en plus, vous êtes venu à deux.
Non, moi j'ai juste lu son livre et j'essaye de témoigner de ce qu'il y a dans son livre. Il dit dans son livre qu'on n'a pas compris la genèse, le fonctionnement, la logique, les motivations, et que par conséquent, on ne peut pas maîtriser.
C'est exactement ça. Et même les militaires américains...
Il y a quelque chose que je voulais dire, juste simplement, qui est important. Le côté boutiquier qu'évoquait Yasmina Kadra, qui est très juste. Moi, il y a quelque chose que je trouve qu'on ne cite pas assez, mais qui est... on ne parle jamais assez des premiers terroristes de l'histoire de l'humanité, qui étaient des musulmans, d'ailleurs. C'était la secte des assassins, je suis désolé. Et qui étaient ismaéliens, chiites, c'est-à-dire ils n'étaient pas sunnites, ils étaient ismaéliens. D'ailleurs, l'ismaélisme étant une branche absolument passionnante
de l'islam. Jacques Beau n'était pas en fonction à l'époque.
Parfois, je me demande. Mais c'était autour du 8e, 9e, 10e siècle. Et ils avaient des châteaux forts. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, mais c'est passionnant, c'est avant le côté boutiquier. Au nom de l'islam, de l'ismaélisme, d'ailleurs, ils attaquaient principalement, évidemment, les sunnites. Parce que, étant d'origine chiite, mais enfin, dès qu'il y avait un sultan sunnite, il se faisait racketter. C'est-à-dire, on lui demandait la secte des assassins, Hachachin. Alors, il paraît que ce serait... Au départ, effectivement, les tueurs, mais c'est très discuté par certains historiens, les tueurs, on leur fournissait, d'ailleurs, comme aujourd'hui à l'État islamique, des substances, des formes de drogue, ça aurait été du hashish, pour leur permettre de tuer plus facilement leur proie. Et alors, c'était une entreprise générale de racket. C'est-à-dire, ça allait d'ailleurs jusqu'en Europe. Le roi de Hongrie était racketté, Saint-Louis a été racketté, enfin, tout c'est... Et puis, quand ils ne respectaient pas le racket... Ils étaient assassinés. Il y a un grand nombre de sultans qui ont été tués parce qu'ils ne... Le point de départ, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Parce que c'est la racine, tout le monde le dit, c'est la racine du terrorisme. Il n'y a pas un livre sur le terrorisme qui ne commence pas par eux. Et au fond, le départ, c'est le racket. Comment obtenir, par l'intimidation, comment obtenir de l'argent? Parce que c'était ça le seul objectif qu'ils avaient.
Alors,
je crois que ça, c'est un peu quand même simplifier les choses de prétendre qu'aujourd'hui, le terrorisme est en ligne directe avec ce qui s'est passé il y a 10 siècles.
Non, mais c'est pas ce que j'ai dit, là. Je sais pas ce que vous faites, là, mais vous avez pas écouté, là.
Non.
Il parlait déjà.
Alors, je reviens à la Libye. Moi, j'étais aux Nations Unies pendant toute la guerre en Libye, et aux opérations de maintien de la paix, on suivait ce conflit au jour le jour, puisqu'on faisait les recommandations pour le Conseil de sécurité, et donc on suivait dans le détail cette guerre. On avait des rapports des Nations Unies, mais des rapports des services secrets américains qui confirmaient qu'il n'y a pas eu de tentative de massacre de Kadhafi. Et les services, les rapports de la DIA américaine, la Defense Intelligence Agency, qui est le renseignement militaire américain, confirmaient qu'il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu ce massacre-là, le massacre de Benghazi, qui a été l'élément déclencheur. Il y a sans doute eu on ne dit pas que les gens sont des saints, mais les éléments déclencheurs qu'il y a eu, qui ont justifié le fait qu'on fasse une intervention massive, étaient en fait des faux prétextes. Et de nouveau, on retombe dans les faux prétextes. On retombe dans les manipulations qui ont conduit à créer ces... Alors, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que les Occidentaux doivent toujours se flageller sur la question de ce qui s'est passé ces trois derniers siècles. Je ne suis pas du tout dans cette ligne-là. En revanche, on est obligé quand même, quand on regarde la situation aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction des pas seulement des manipulations, mais des mensonges que l'on a faits dans l'appréciation qu'ont les musulmans, même ceux qui sont chez nous d'ailleurs, et naturellement des pays musulmans, sur notre manière de voir, sur notre action, pardon. Et d'ailleurs, on le voit très souvent quand on parle à des Arabes. Après, d'ailleurs, les attentats de novembre l'année passée en France, vous aviez quand même 30% des réseaux les réseaux sociaux en arabe en France qui soutenaient l'État islamique et les islamistes après les attentats. Tout simplement parce qu'il y a, et ça ne veut pas dire que ces gens sont des terroristes, ça ne veut pas du tout dire ça, mais ils sentent une proximité. Le problème, c'est qu'on a donné l'illusion ou l'impression, où on a stimulé cette perception que l'Occident en voulait à l'islam. Parce qu'on a tout fait pour faire des guerres. On a fait toutes les manipulations possibles pour justifier nos guerres. Il n'y avait pas de raison d'aller en Afghanistan. Pas plus qu'il n'y en avait pour aller en Irak. Pas plus qu'il n'y avait pour aller la première fois en Irak. Il n'y avait pas plus de raison pour aller en Libye. Or, chaque fois, nous y sommes, non seulement nous y sommes allés, mais on a trouvé toutes les raisons pour le faire. Quand, après, même après les attentats de Nairobi et Dar es Salaam, en août 1998, les Américains ont pris de court, et là aussi j'étais d'ailleurs, par coïncidence, j'étais aussi en poste à New York à ce moment-là, et on a aussi suivi tout ça. En 98, les Américains, et surtout Bill Clinton, qui était emberlificoté dans l'affaire Lewinsky et qui devait passer périodiquement soit devant la télévision, soit devant le grand jury, etc., etc., il devait trouver des alternatives un petit peu, ou en tout cas distraire un peu l'opinion. Et après ces deux attentats simultanés au début août 98, on a frappé le Soudan et l'Afghanistan. Pratiquement au hasard, parce qu'on ne savait pas du tout qui étaient les vrais auteurs. On a supposé que c'était Bin Laden, mais on l'a supposé, c'est resté une supposition, comme d'ailleurs on peut en témoigner, comme je mentionne dans le titre, les notes que Clinton a écrites après les attentats, et sur la base aussi de ce qu'il a reçu de ses propres services, il a émis des doutes, il a dit « mais est-ce que vraiment on me raconte la réalité ?» Donc on ne savait pas qui étaient vraiment les auteurs, ou en tout cas s'il y avait des pays, etc. Mais on a quand même bombardé le Soudan, on a quand même bombardé l'Afghanistan. Et personne ne s'est posé de questions là-dessus. Personne même n'a demandé réparation. D'ailleurs, il n'y a jamais eu ni de réparation ni d'excuse pour avoir bombardé le Soudan. Or, le Soudan n'est pas a priori impliqué dans toutes ces affaires d'islam. Donc on a donné cette impression, et on entretient, à vrai dire, à tort ou à raison. Et sans doute, de nouveau, je le précise, c'est pas par calcul. Le complotisme et le conspirationnisme supposent qu'il y a une intelligence derrière, un tireur de fil, un marionnettiste qui dirige et qui... C'est pas du tout ça. C'est exactement l'inverse qui se passe. On a une suite de décisions ponctuelles, de court terme, à vision politicienne, d'ordre tactique, dont on ne mesure absolument pas les conséquences à long terme.
On va y revenir, exactement Jaco, l'inverse. Parce que vous dites des choses extrêmement importantes et graves dans votre livre. Mais j'aimerais que Yasmina Khadra réagisse peut-être à ce qu'a dit François-Olivier Gisbert tout à l'heure. Vous n'aviez pas l'air totalement d'accord non plus avec ce qu'il disait tout à l'heure.
Tous les deux ont raison, je ne sais pas. Mais le problème, c'est surtout la question de légitimité. Je ne vais pas revenir parce que ce qu'ils disent est raisonnable, il est juste. Pour revenir juste à Hachachin,
oui, c'est ça.
Il faut comprendre que ça vient de assassin. Assassin, ça vient de assassin.
Oui.
C'est-à-dire fondamentaliste. C'est ça le vrai. C'est, en arabe, SS, c'est le tout ce qui est fondamental.
Étymologiquement, en arabe, ça veut
dire. Et assassin, ça veut dire être fondamentaliste. Voilà. Mais bien sûr, on parle de drogue et tout, mais souvent, les terroristes n'utilisent pas ça. Leur drogue, c'est justement cette addiction au sang. Oui, ils sont horribles. Ils se réjouissent ils se délectent de la souffrance des autres. Ce sont des monstres. Il faut vraiment les connaître. Voilà, moi, j'ai eu le malheur de les voir, de les connaître, de les combattre. Et je vous assure que c'est une horreur, c'est une pandémie terrible. Voilà, l'humanité s'est battue pour dire qu'il n'y a qu'une seule race. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a la race, il y a les espèces. Et ces gens-là font partie de l'espèce.
Ouais, c'est assez joliment dit. François-Olivier Gisbert, j'ai l'impression que vous avez envie de débattre encore et en tout cas de réagir.
Non, parce que justement, c'est le contraire. Je suis désolé, parce que ce que dit là Jaco, j'ai pas de désaccord. Moi, j'ai des accords, mais fondamentaux, et ça me rend hystérique. C'est l'idée, c'est toujours notre faute. Il y a un attentat, c'est notre faute. Regardons, c'est notre faute.
Okay,
ça, c'est l'attitude de l'Occident à chaque fois.
Okay.
Or, moi, comme Yasmina Khadra, je pense qu'il y a le bien et le mal. Pas seulement lui, Anna Arendt, etc. Il y a le bien et le mal, ouais. Et il faut sauvegarder le bien. Et je faisais partie de ceux, très rares en France d'ailleurs, qui au moment des attaques permanentes du FIS et du GIA en Algérie, soutenaient la politique des, je peux appeler les républicains ou démocrates de l'époque, même si tout ça a mal fini. Mais enfin, on n'était pas beaucoup de journalistes. Hein. Il y avait un journaliste de l'Humanité, ouais, il y avait Jean-François Kahn, on était trois ou quatre, on pouvait faire des réunions dans une cabine téléphonique. Tous les autres, toute la presse, sous le prétexte, bien entendu, c'est de notre faute, avec évidemment les droits de l'homme mixtes qui s'émettaient, enfin les associations de défense des droits de l'homme, etc. Tous les autres défendaient le FIS, le GIA. Enfin, les FIS avaient soi-disant gagné les élections, donc de toute façon, il fallait qu'ils gouvernent. C'est une attitude absurde. D'ailleurs, une attitude que partage Barack Obama, puisque parmi ses nombreuses erreurs historiques qu'il aura commises, il y a notamment celle d'avoir accepté l'élection de Morsi, qui s'est passé dans des conditions évidemment suspectes, et d'avoir refusé celle de Sisi, qui s'est déroulée dans les mêmes conditions suspectes. Mais si vous trichez et que vous êtes islamiste, apparemment, aux yeux d'Obama, vous êtes plus représentatif de votre peuple que quelqu'un qui, comme Sisi, évidemment, avait une politique anti-islamiste. Donc, voilà. Moi, c'est ça que je récuse. Après, sur le reste...
Vous allez adorer ma question suivante.
Non, attendez. Sur le reste, juste si je peux en placer une. Bon, je sais que je gêne un peu, mais bon.
Mais vous gênez personne.
Juste, il y a quelque chose qui est important.
Non, mais
il y a quelque chose qui est important, qu'a dit Jacques Beau, là, je vais rejoindre. C'est le long terme. C'est-à-dire, je pense que la grande erreur des responsables politiques, même si je pense qu'ils ne font pas ça pour gagner les élections, je n'ai pas du tout cette vision-là, qui est un peu primaire à mon avis. Non, c'est plus compliqué parce que de toute façon, une guerre, c'est très dangereux. Quand vous engagez dans une guerre, c'est très, très dangereux. Souvenez-vous de ce qui a été dit sur François Hollande quand il s'est engagé dans la guerre au Mali. C'était juste atroce. Les gens, toute la classe politique, les journalistes compris, tout le monde mettait une croix dessus. Une guerre, c'est dangereux. Et c'est normal, ils prennent un risque. Souvent, oui, il y a une sorte d'appel. Par exemple, sur la Libye, il y avait une immense naïveté. Il a dit quelque chose de juste, beau, peut-être la seule chose juste qu'il ait pu dire jusqu'à présent. C'est maintenant, on peut rigoler ou pas, là, mais vous êtes vraiment... Oh là là, les Suisses, on peut rien dire. Non, mais apprenez à rire un peu de distance, un peu de débat. Et puis, je ferai la bise à Jacques Beau après, si vous voulez. J'ai pas de problème, on n'est pas là. On va pas se tuer ou s'entretuer. Bon. Mais il a dit quelque chose de très juste sur long terme et court terme. C'est-à-dire que l'homme politique, c'est le grand reproche que je lui ferai, moi, c'est pas le cynisme à chercher la victoire électorale au cantonal qui vont suivre. C'est une absence totale de vision à long terme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en Irak? On voit très bien, quand on voit tous les textes de l'époque, c'est-à-dire, George Bush, il y avait, un côté presque mystique, c'est-à-dire mystique démocrate. C'est affreux ce qui se passe en Irak. Les chiites sont persécutés depuis des générations par les sunnites, qui se comportent très mal avec eux, qui les ont complètement asservis. Il faut libérer les sunnites. D'ailleurs, souvenez-vous, quand les soldats américains sont arrivés, ils ont été très, très bien accueillis par la grande majorité de la population, qui est chiite. Même chose. Mais oui, il suffit de regardez les images à la télé. On les repassera à Jacques Beau qui n'a pas dû les voir. Et regardez aussi l'accueil incroyable des troupes. Quand Nicolas Sarkozy s'est rendu en Libye, c'était Nicolas Sarkozy par-ci, Nicolas Sarkozy par-là. C'était le grand vainqueur et le peuple libyen, dans son grand ensemble, le soutenait. Le problème, évidemment, c'est le long terme. C'est-à-dire, il y a des constantes dans ces pays, il faut essayer de voir le coup d'après en permanence, et c'est ce que tous ces politiciens qui ont lancé des combats comme ça, sur un coup de tête parfois, d'ailleurs il faut bien dire les choses, ou dans une espèce d'emballement d'opinion, n'ont pas vu. Ils n'ont pas pensé au coup d'après. Et c'est pour ça qu'on se trouve là où on est aujourd'hui, en Irak, en Libye et ailleurs.
Alors, Jacques Beau, rassurez-moi, vous avez la télé.
Oui. Mais je la regarde pas beaucoup, c'est vrai.
Non, mais là, vous êtes...
Et je dois pas regarder les mêmes
chaînes.
Vous
êtes vraiment deux, là. Vous êtes paxés ou quoi là,
non, mais alors...
Non, mais vous dites qu'il n'aura vu la télé, je lui demande s'il a la télé. C'est logique.
Quand on parle, par exemple, de la Libye, en 2007 déjà, on savait que plus de 85% des combattants libyens en Afghanistan et en Irak venaient de Benghazi. En d'autres termes, quand les Occidentaux ont soutenu la rébellion à Benghazi, ils savaient qu'ils soutenaient les islamistes. Donc, au-delà du fait qu'on a renversé Kadhafi, on savait qu'on soutenait les faux. Et ça, les services de renseignement savaient parfaitement. Alors, la question qu'il y a, c'est... Vous dites, c'est pas nous, c'est pas nous.
Non, mais
je ne cherche pas à flageller, l'autoflagellation des Occidentaux, mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on y va ? Moi, si on avait des bonnes raisons pour y aller, je suis militaire, je n'ai pas de problème particulier, mais on n'a pas les bonnes raisons. Et non seulement on ne les a pas, mais on ne s'est pas fixé les objectifs pour y aller. L'opération au Mali, Serval, qui a été suivie de Barkhane, et je le sais de militaires français qui ont été là-bas, qui me disent on travaille sans objectif. On ne sait pas quand ça va. On ne sait pas où ça va. On tue des islamistes de ci, de là. Mais à partir... Quand est-ce que l'opération sera terminée ? On ne le sait pas. Parce que, justement, on lance des opérations. Alors, effectivement, c'est un risque politique de le faire. Néanmoins, on a monté dans les sondages momentanément. Mais, de nouveau, il n'y a pas de calcul à long terme. Il n'y a pas de stratégie à long terme. On ne sait pas ce qu'on va y faire avec ces guerres. Et c'est ça qui est un problème. Regardez en Syrie, est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire ? Détruire l'État islamique, ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Quand on a voulu détruire Al-Qaïda, c'est devenu l'État islamique, etc. Ça ne veut rien dire. Donc on n'a pas de stratégie en réalité pour aller. Et on ne sait pas quel moment ça va. Quel est le point qui va nous dire on a rempli notre mission, on peut se replier ? On n'a pas ça. Donc on engage quelque chose sans... qui est, comment on dit en anglais, open-ended, qui est ouvert. Il n'y a pas de point où on peut dire « Ah, maintenant, c'est fini ». Quand les Américains sont allés en Irak, ils ont dégommé Saddam Hussein, ils ont dit « Mission accomplie ». Ouais. Et pour eux, la guerre était finie. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la guerre leur commençait parce qu'ils ont fait une mauvaise appréciation, qu'ils n'ont pas compris que justement les gens qui les accueillaient, soi-disant avec des petits drapeaux, ont commencé à se retourner contre eux. Et tout simplement parce qu'on n'a tout simplement pas compris ça. On n'a pas compris la dynamique qu'il y avait dans ces pays. On l'a compris intellectuellement en large, mais on n'a pas compris les conséquences qu'elles allaient avoir sur le terrain et les implications que ça allait avoir sur le terrain.
Jacques Beau, Yasmina Kadra a pris son micro dans les mains depuis un moment, donc il a peut-être envie de réagir. Si c'est le cas, on lui donne la parole. Et ensuite, François-Olivier Gisbert, lui, je suis sûr qu'il veut réagir puisqu'il a demandé la parole. Non, il l'a demandé très poliment. Garçon formidable.
J'aimerais tant parler des choses essentielles.
Il est en train de changer de camp.
Ouais. L'avantage du modérateur, c'est qu'il doit être neutre. En plus, un modérateur
suisse.
Oui,
je suis pas trop.
Un modérateur suisse, je vous laisse imaginer, c'est carrément neutre de chez neutre.
C'est pas l'impression que j'ai eue.
On discutera après.
Je pense qu'il y a des gens haut placés qui pensent faire quelque chose pour leur peuple, quelque chose que le peuple ne demandera jamais, parce qu'un peuple veut vivre en paix. Un peuple veut élever ses enfants tranquillement, il veut construire petitement son petit nid. Et il y a des gens qui pensent que, ouais, ils sont là pour rendre un peuple beaucoup plus riche, beaucoup plus fort. Et c'est tout le drame de l'humanité vient de là. Si seulement ces responsables pouvaient s'occuper uniquement de leur fonction les plus traditionnelles, on serait très heureux. Mais Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il est allé foutre en Libye. Sincèrement, il voulait avoir une histoire, une place dans l'histoire, ben il l'a maintenant, il l'a bien. Voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est un criminel. Les gens qui vont faire la guerre, ce ne sont que des criminels, quel que soit l'objectif, quel que soit. Même si on est animé par des pseudo-bons sentiments, la guerre reste toujours une horreur et celui qui l'a choisi est une ordure. Voilà, c'est tout.
François-Olivier Gisbert, je vous donne la parole en toute neutralité.
Alors, Yasmina Kadra fait un très beau discours contre la guerre. C'est toujours une occasion, d'ailleurs, de se faire applaudir. Mais je ferai...
Vous en loupez pas une.
Je ferai remarquer, avec tout le respect que je lui dois, qu'il a fait la guerre lui-même. C'est-à-dire que moi-même, mes parents, mes grands-parents ont fait la guerre. Hein. Mon père, il est venu sur le sol français, il a débarqué. Et ils ont fait la guerre contre les nazis. Et je pense pas qu'il aurait aimé qu'on le traite de salopard. Parce qu'il était très fier d'avoir fait la guerre contre les nazis. Mais je pense que Yasmina Kadra, là, il se contredit parce que je me dis très fier d'avoir fait la guerre contre les islamistes.
Eh ben, répondre.
Je ne me contredis pas. La guerre, c'est une saloperie.
Oui,
c'est une saloperie. Voilà. Moi, j'ai fait cette guerre parce que tout simplement, on était là. Parce que d'autres l'ont voulu pour nous. Parce que les guerres sont subies par les peuples alors que les peuples ne les ont jamais demandées. Voilà.
On est tous d'accord.
On était là, oui.
Alors, vous pouvez applaudir.
Nous sommes tous contre la guerre. Nous sommes tous contre la guerre. Abat la guerre, abat la mort.
Oui. et j'en parle très bien de les anges meurent de nos blessures.
Oui.
Avec ces généraux qui finissent sur le socle pour que les pigeons viennent leur chier dessus.
Absolument.
Voilà.
Oui, oui.
On était là, moi je rêvais d'un univers merveilleux qui s'appelle le milieu intellectuel. J'ai subi toutes les déconvenues, tous les déboires, parce que j'étais absolument certain, un jour de rencontrer M. Gisbert, Bernard Pivot. Oui, c'est vrai, c'était des gens qui... pour moi, c'était la magnificence. Quand je voyais, des fois, je vous assure, j'avais des missions. Et quand il y avait une mission de Bernard Pivot... Je désertais en tant qu'officier pour aller là-bas. Je le jure. C'était pour moi, c'était des moments heureux. C'était ça. Et puis un jour, la guerre est venue frapper à ma porte. Et puis j'ai vu des gens, des enfants mourir, des attentats. Et quand j'ai fait cette guerre, c'était pour sauver. C'était pas pour... voilà. Il y a eu les résistants français. Quand les gens se sont mobilisés contre Hitler, c'était pas par plaisir. Mais parce que l'horreur était là, il fallait la détruire pour accéder un petit peu à un moment de quiétude. Donc j'ai fait la guerre et je l'ai subie et je sais pourquoi je la déteste.
Parce qu'elle est injuste. On déteste tous la guerre, mais par moments on est obligé de la faire parce que voilà, elle est en face de nous et il faut se défendre.
Voilà, c'est.
Voilà, ben on a un point de convergence sur tout le monde. Je suis désolé, dans 20 minutes on accoste, donc il reste peu de temps. J'ai promis de parler de vos deux romans et j'ai promis aussi de.
S'il vous plaît.
Mais oui, oui.
Il y aura la flattez-moi. Dites-moi que je suis le plus grand écrivain du monde, je vous en supplie.
Je suis embêté parce qu'il est là aussi. Donc. Non, on va donner la parole au public pendant une dizaine de minutes sur des questions concernant cette thématique du terrorisme. Donc allez-y, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vous passe le micro.
Oui. J'aurais aimé savoir quelle serait votre définition possible, je pense plutôt à M. Beau, d'une stratégie à plus long terme et d'une stratégie intelligente à plus long terme qui n'amènerait pas ce qui se passe maintenant. Quelle pourrait être une possible définition ?
On va demander au capitaine du bateau de faire un deuxième tour parce que ça prend un certain temps pour répondre à ça, mais on vous donne la parole.
J'essaye d'y répondre assez rapidement. Il faudrait déjà commencer par arrêter tout ce qui alimente ces guerres. Donc toutes les guerres où on n'a finalement aucun intérêt à être, parce qu'on n'avait aucune raison d'aller. Quelles étaient les raisons ? Les Américains auraient pu avoir une raison de soutenir un gouvernement qu'ils avaient aidé à mettre en place et qu'ils cherchaient à consolider en Irak. On pourrait le concevoir, mais qu'ils n'avaient pas de raison d'y aller en 2003. Mais après, il y avait une sorte de présence. Mais pourquoi la France ? Pourquoi la Belgique ? Ces pays qui avaient refusé d'aller en 2003, qui n'avaient donc aucune obligation, sont tout d'un coup mis dans un bain qui n'avait aucune nécessité. Donc déjà, réfléchir sur ces questions-là et essayer de revenir en arrière et de garder le conflit au niveau où il doit rester. Et vous verrez qu'une bonne partie, si pas tout le terrorisme qui nous concerne, disparaîtra. Ça ne va certainement pas résoudre les problèmes sur place qui vont rester insolubles parce qu'on a créé un chaos qui aujourd'hui va prendre sans doute des décennies, si pas des générations, pour être comblé. Mais au moins, on arrivera à réduire une bonne partie du problème. Puis, il y a certainement, il faut sans doute lutter contre l'extrémisme chez nous aussi. Ça, c'est possible. Mais c'est en fait un élément périphérique. L'élément central, c'est d'enlever les causes qui poussent les gens à devenir... Parce qu'on parle beaucoup de la manière dont les gens... deviennent la manière dont ils se radicalisent. Mais on ne parle jamais de pourquoi ils se radicalisent.
Il y a un monsieur au fond de la salle qui a l'air d'être pas du tout d'accord avec vous. Il a fait non, non, non pendant toute votre intervention. Vous voulez intervenir, monsieur ?
Oui. Non. Oui. Voilà.
Vous voyez que je suis totalement neutre. Hein.
Oui. Je vais d'abord répondre et je vais vous après.
Parce que là, oui.
Bien.
Et... comme par hasard, on ne peut pas l'entendre. Ce sont les débats biaisés à la Suisse. Un seul son de cloche. Non, monsieur, ce n'est plus votre tour. Au suivant.
J'ai déjà vu.
Voilà.
Bon, alors, c'était par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement. Enfin, Monsieur François-Olivier, n'est-ce pas ? Et puis surtout, Monsieur Jacques Beau, hein. Tout a été construit sur le mensonge. Or, le mensonge, c'est quoi ? C'est se protéger. Et se protéger contre quoi ? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, c'est un petit peu pour remarquer que il y a un Occident judéo-chrétien avec un esprit, je ne dis pas d'espoir, mais d'espérance, n'est-ce pas, et un esprit oriental arabo-musulman avec un esprit fatalique, fatalisme, n'est-ce pas? Or, le fatalisme et l'espérance ne se combinent pas très bien.
Ok, on va prendre ces deux questions.
Voilà, mais par rapport...
Il me regarde avec, il n'y a pas de problème.
Et puis par rapport à la Tunisie, il ne faut pas oublier que, d'une part générale, tous les grands leaders des années 50 à 60, c'était des laïcs. Il ne faut pas les oublier. Bourguiba était un laïc. Ben Bella était un laïc.
Il était islamiste.
Oui, mais enfin...
Il était islamiste. On ne peut pas être laïque et islamiste.
quand Béchar Lassène était, c'était des laïcs. Bien entendu, après, quand il y a eu les révolutions, et puis on a enfermé tous ces islamistes, n'est-ce pas? Et quand on a libéré, il ne faut pas oublier que la population musulmane, n'est-ce pas, dans ses paroles et dans son dialogue, il emploie tous les jours, à chaque phrase, le mot de Dieu, le mot d'Inch'Allah, le mot Yah. C'est dans le vocabulaire, n'est-ce pas? Donc c'est difficile à enlever. Et quand ils sont, et quand ils ont été, pardon.
Mais où est le problème? Où est le problème quand on dit Inch'Allah?
Si, attendez. Non, il y a un problème,
C'est de l'humilité, vous savez.
Alors, encore trois phrases bon, et je
voilà.
débranche.
Voilà. Bon, alors
on y va. Très bien. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre. Monsieur a parlé d'abord du mensonge pour se protéger, qui a un avis sur est-ce que par exemple au niveau des services de renseignement, on peut tolérer quand on mente pour se protéger? Est-ce qu'on le fait?
Alors, je dirais que c'est plutôt l'affaire des politiques. Le rôle des services de renseignement... Alors, il y a des pays qui ont des services dits de désinformation, qui désinforment. Ça existe. Et ça fait passer pour pour cacher des opérations qu'on voudrait faire, etc. Mais en l'occurrence, concernant le terrorisme, il a fallu faire passer un certain nombre de pilules au peuple, en particulier aux États-Unis, parce que, selon la loi américaine, un président n'a pas le droit de déclencher une guerre si le pays n'est pas directement attaqué ou s'il n'y a pas une menace directe sur le pays. Par conséquent, pour des raisons légales, s'il veut déclencher une guerre, il est obligé de créer une situation qui permette d'y arriver là, exactement. Et c'est ce qui explique, et c'est comme ça qu'on explique toutes ces différentes manipulations et c'est cette désinformation qui a précédé tous les conflits récents.
Merci. Voilà. Les chrétiens optimistes et les musulmans fatalistes, c'est un peu caricatural quand même.
Raciste. Allez-y, allez dans le Sahara algérien, vous allez voir, vous allez rencontrer l'humanité. Vous savez comment on appelle quelqu'un qui vient frapper à votre porte chez nous? C'est un envoyé de Dieu. Donc, il faut en prendre soin. Nous sommes dans la générosité, nous avons toujours été dans la générosité. Et faire croire que les Occidentaux, ce sont des espérances et nous sommes la désespérance, c'est vraiment très triste de l'entendre, mais ce n'est pas grave. Alors ça fait revenir un peu au mensonge, je crois que le mensonge...
Ça fait une excellente transition avec ce qu'il a dit en dernier. Vous avez dit, les gens qui frappent à la porte, c'est les envoyés de Dieu.
Oui.
Donc il dit, dans le vocabulaire,
n'est pas méchant,
Dieu apparaît tout le temps.
C'est pas méchant. En Amérique, on dit partout il y a Dieu sur les
Même sur les
billets
de banque aux États-Unis.
Okay. C'est pas gênant Dieu, c'est l'homme qu'il est. Et je crois pour le mensonge ne protège que les gens qui pratiquent l'adultère.
Waouh. Alors ça. Celle-là, elle est forte, Yasmina Kabra. Très, très bien. Il y a un copyright où on peut s'en resservir dans certaines situations. Je vous remercie infiniment. Formidable. Vous vouliez ajouter quelque chose, François-Olivier Gisbert?
Ça ressemble presque au mot de la fin. Là.
Oui, c'est ça. Bien. Non, mais en plus, ça me fait une super transition avec son roman. Son dernier roman qui est tout frais, qui vient de sortir. Dieu n'habite pas la Havane. Vous nous racontez l'histoire de Don Fuego, qui est un chanteur. Alors là, on change totalement de sujet. Il faut switcher, mesdames, messieurs. Terrorisme terminé. On part dans une histoire d'amour complètement dingue. Don Fuego, qui chante dans un club qui s'appelle le Buena Vista, perd son job pour des questions politiques, finalement, une décision politique. Et on va pas tout raconter parce qu'il faut que les gens lisent, mais il va rencontrer une jeune femme dont il va tomber mais fou amoureux. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous croyez, vous, à l'amour fou? à celui où il n'y a justement pas adultère et où on est fidèle du premier au dernier jour.
Ça fait 30 ans que je suis marié et je n'ai jamais trompé ma femme.
Alors, c'est... Ce qui est formidable.
Ça, c'est aussi un truc pour se faire applaudir.
Non,
mais
non, non, non.
Moi,
je demande
le droit de suite et d'enquête.
Non.
C'est... Nous allons la mener avec Monsieur Beau, d'ailleurs.
C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que si on revient à ce qu'il a dit juste avant, il ne tolère le mensonge qu'en cas d'adultère. Donc peut-être est-ce un mensonge.
Non, mais écoutez, j'ai rencontré Mayense là-bas. Ça a été une fille. Ça a été une espèce de. D'inspiration, c'était une très belle fille. Et puis j'ai aussi rencontré un peuple et j'ai voulu vraiment m'éloigner justement de ce qu'on appelle le terrorisme. Parce qu'on n'entend que ça à la télé, à la radio. Je voudrais tout simplement croire que le monde continue de se rêver, qu'on a encore le droit de s'émerveiller, de voyager, de croire que la bonté, elle est partout. Et que si le mal chahute cette bonté par endroits, ce n'est pas la fin du monde. Nous devons aussi continuer d'aimer et d'espérer. Et je suis quand même un exemple très, très vivant. Je n'ai connu dans la vie que des choses terribles. Et pourtant, ça ne m'a jamais empêché de rêver. Et j'ai écrit ce livre justement pour partager un moment de bonheur. Parce que c'est le seul livre que j'ai écrit avec bonheur. J'espère qu'il sera partagé avec mes lecteurs.
Alors ça, il faut ça, pas... Non, voilà. Mais ça se sent parce qu'une espèce de jubilation dans la manière dont vous racontez. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Alors, il y a une part d'ombre aussi, hein, parce que cette fille que Don Fuego aime plus que tout...
Mais il ne faut pas le dire.
On ne va pas le dire. Mais il y a une part de lumière et une part d'ombre.
Ben oui.
Et ça, souvent, dans vos romans, vous aimez montrer aussi qu'on n'est jamais tout noir ou tout blanc ou tout bleu, qu'on a
on
tous...
On est basané.
Ouais, mais certains plus que d'autres.
Oui, moi, surtout moi. Moi, quand je me mets à l'ombre, je disparais.
Bon, alors, on va faire simple, hein, puisque vous me l'avez demandé. Vous avez écrit le plus beau roman du monde.
Non, pas du tout. Mais
si, non, il est vraiment très bien, je vous promets.
Il y a dans le monde des livres, il dit que c'est une nullité absolue. Alors, c'est au lecteur de décider. S'il est...
Moi, je pense le monde des livres a dit que c'est une nullité absolue.
Oui, hier, c'est une nullité absolue. Mais ce n'est pas grave, parce que je suis certain qu'il lui a fait beaucoup de mal, ce livre.
Oui, probablement.
Parce qu'il est tellement beau. Et il a compris qu'il ne pourra jamais écrire un livre pareil.
François-Olivier Gisbert, qu'a dit le monde des livres de l'arracheuse de dents ?
Oui, on ne parle jamais. On ne parle jamais de mes livres.
Non, mais pourquoi ?
Mais je ne peux pas me plaindre, ça marche très bien.
Ah, bah,
d'ailleurs,
oui.
Peut-être que s'ils en parlaient, ça marcherait moins bien. Bah, j'ai jamais un article dans Le Monde, jamais d'article dans Télérama, jamais d'article. Mais on vit très bien sans, vous savez, parce qu'on a notre cercle des lecteurs. Et je ne me plains pas, parce qu'à chaque fois, j'ai des gros succès. Et puis des grosses traductions, avec parfois des gros succès à l'étranger, comme Yasmina Kadra, c'est-à-dire La cuisinière d'Himmler, ça s'est vendu très, très bien.
Ah ouais, formidable roman. Partout.
Et celui-là, il marche sur
Il est très bien, vraiment.
Et celui-là.
Il est bon camarade, Yasmina aussi. Hein.
Et celui-là, il marche sur les brisés de La cuisinière d'Himmler. C'est-à-dire, c'est des romans. Moi, j'ai écrit ça pour m'amuser. Enfin, il disait, voilà, qu'est-ce qu'il a dit pour s'évader un peu, Yasmina Kadra. Je ne suis pas sûr, ce n'est peut-être pas le mot adapté pour moi, mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'aller ailleurs, d'aller fréquenter d'autres territoires, d'autres siècles, à travers des personnages un peu foutraques, un peu bizarres. C'est des femmes, deuxième fois. Je me mets dans la peau d'une femme. Je suis une femme, de toute façon.
Non, mais vous êtes modeste, parce que vous dites, je fais ça pour m'amuser. En même temps, quand on vous lit, il y a un boulot incroyable. Il y a un boulot de documentation. On a l'impression que vous avez vécu à l'époque de la Révolution
française.
C'est
le plaisir d'écrire, ça. Mais c'est-à-dire, on est pris dans une espèce de frénésie. Moi, j'ai une façon très particulière de travailler. J'achète tous les livres anciens. Et quand ils sont trop chers, je les googlise pour les avoir comme ça, mais presque en papier. Je vis dans cet univers. Et puis, le moins de petits détails aujourd'hui, grâce à Google, on peut l'avoir. Donc c'est vrai qu'il y a un travail considérable, mais en même temps, je me laisse emmener par mon personnage. Alors mon personnage, il va fréquenter surtout le 19e siècle, un peu le 18e
siècle. Lucille Bratzok.
La guerre de... Elle va traverser la Révolution française, la guerre de sécession, ça, à travers des amours, bien entendu, des histoires fortes.
C'est assez chaud par moment. Hein.
Oui, bien sûr, mais à travers aussi une vision de l'histoire que je revisite. Parce que j'aime bien l'idée de revisiter l'histoire. On nous a raconté un peu l'histoire à l'envers, la Révolution française notamment, la guerre de sécession, puisque quand même, alors, les grands vainqueurs de la guerre de sécession...
Comme vous, elle vit sur deux continents. d'une certaine
oui,
manière.
Oui, bien sûr, mais je me sens très, très proche d'elle. Franchement, oui. J'ai pas du tout. Je me sens plus proche d'elle que de la cuisinière d'Himmler qui était une victime. Là, celle-là n'est pas une victime. C'est quelqu'un qui est joyeux. Oui. C'est un personnage un peu d'Alexandre Dumas, on pourrait dire. Tout une sorte de Monte Cristo joyeux. Vous voyez, elle est là, comme ça, elle avance. Elle n'a peur de rien. Et quand je dis foutraque, oui, parce qu'elle est insolente, elle dit des horreurs. Enfin, voilà. Et moi, j'aime bien ce genre de personnage. J'essaie de l'être un peu de temps en temps, comme aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire les choses, à secouer les cocotiers. Et elle est comme ça. Elle est comme ça et elle défouraille un peu parce qu'elle tue aussi en passant. Mais c'est vrai que je reste très près de la réalité historique. J'ai travaillé comme un chien, si vous voulez rappeler, la Révolution française, la guerre de sécession, qui est aussi une histoire à raconter.
Non, parce où c'est
les trois héros de l'Amérique, vous savez, qui ont gagné la guerre de sécession. Sherman, Grant et Sheridan. Grant qui est devenu d'ailleurs président après l'assassinat de Lincoln, enfin un petit peu après. Eh bien, ces gens-là sont des génocidaires. Ce sont eux qui, après avoir fait la main sur les sudistes, qui sont tués dans des conditions atroces, les sudistes n'étant jamais armés, c'est une chose qu'on ne sait pas. Enfin, ils avaient des matériels pas possibles, ils étaient souvent nu-pieds. Je crois qu'un tiers à peu près de l'armée était nu-pieds. Donc, vous voyez les conditions dans lesquelles ils se battaient. Et ils se sont battus longtemps, hein, parce que pendant 4-5 ans, ils ont tenu tête à l'armée. Pendant 4 ans, en tout cas, ils ont tenu tête à l'armée des fédéraux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ces gens qui avaient gagné la guerre, dans des conditions de... Enfin, c'était une boucherie. Enfin, c'était... Voilà, ils ont fait un peu comme en Vendée, le célèbre général Thurot, c'est-à-dire on brûlait tout, on tuait tout le monde, les enfants, les femmes, le bétail, etc., pour terroriser les sudistes. Et après, bah, ces méthodes qu'ils avaient apprises, ils ont expérimenté. Enfin, ils ont tué les Indiens, génocidé, exterminé les Indiens avec ça.
Alors, où vous êtes modeste, c'est que vous dites « j'ai travaillé comme un chien », mais ça ne se voit pas, parce qu'il y a le plaisir d'écrire, effectivement, le plaisir de nous raconter une histoire, et ce travail qui est considérable...
Oui,
non mais c'est toujours difficile de bosser et que ça ne se voit pas, et c'est très réussi, je voulais vous le
mais
dire.
Mais je crois que c'est important, moi j'écris mes livres pour le lecteur, c'est-à-dire je veux qu'il s'amuse, j'écris moi entraîné par une histoire que je ne connais pas tout à fait, donc j'écris sans doute comme Yasmina avec le plaisir de la découverte, c'est-à-dire ah ouais elle a fait ça, elle va là, et puis effectivement après l'idée c'est de partager, vous savez pourquoi? Parce que le roman que nous représentons ici, Yasmina et moi, désolé Monsieur Beau, mais ça viendra certainement.
Bah, il en est peut-être
le roman, c'est le plus grand des genres qui soit, moi qui les ai fait tous. Pourquoi? Parce que dans le roman, vous pouvez tout mettre. Et d'ailleurs, nous en sommes la preuve. Vous pouvez mettre de l'histoire, vous pouvez mettre de l'information, de la documentation, vous pouvez mettre de la poésie, vous pouvez mettre de la philosophie. C'est le genre le plus beau de tous les genres, parce que c'est pour un écrivain, c'est le seul genre où vous êtes totalement libre.
Et la fiction est parfois le meilleur moyen d'approcher la vérité.
Absolument. Parce que soit ce qu'on en dit plus par la fiction... Parce que qu'est-ce qu'on fait avec la fiction? C'est qu'on ne transmet pas seulement des idées. On transmet des sentiments, des sensations. Et nous sommes des animaux. Nous sommes aussi des animaux. Nous sommes des animaux humains, contrairement aux animaux non humains. Et nous pouvons partager beaucoup plus de choses par le sentiment, par la sensation, qui viennent souvent d'ailleurs par la poésie, parce qu'on met toujours de la poésie, on met de l'émerveillement dans nos livres, de la découverte, de l'amour aussi.
Franz-Olivier Gisbert, l'arracheuse de dents, c'est chez Gallimard. Yasmina Kadra, Dieu n'habite pas la Havane, aux éditions Julliard. Et puis Jacques Beau, Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident, aux éditions du Rocher. Tous ces livres se trouvent sous la tente. Nous allons accoster. Messieurs, vous allez aller directement sous la tente pour accueillir les lecteurs qui voudront bien venir vous faire signer vos livres. Et je vais vous demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir remercier, mais alors très, très, très chaleureusement, nos intervenants avec vos applaudissements.